Je vais me présenter, je m'appelle Philippe Bossy, je suis médecin essentiellement en maladies infectieuses et je travaille à l'hôpital de Dantony et à l'Institut Pasteur à Paris. Je voulais remercier bien évidemment l'ensemble du corps enseignant de votre lycée de m'avoir accueilli, de m'accueillir ici pour vous parler d'un sujet très intéressant qui est bien sûr Mme Zouhidi qui s'occupe de l'organisation de ces différents topos dans les lycées. Je vais vous parler d'un sujet d'actualité qui est passionnant, moi qui me passionne depuis un certain nombre d'années, à savoir les maladies émergentes infectieuses. Ça vous dit rien, je vais vous expliquer ça petit à petit et vous comprendrez tout. Il y a un monsieur en 1933 dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Charles Nicolle, qui était un microbiologiste de Rouen, donc un monsieur qui travaillait sur des bactéries dans des laboratoires, qui a été prix Nobel et à l'époque il écrivait dans un de ses livres largement connu que les maladies infectieuses, il en naîtra des nouvelles, en disparaîtra lentement quelques-unes et celles qui subsisteront ne se montreront plus sous leur forme que nous le reconnaissons aujourd'hui. C'était un monsieur qui était largement précurseur, vous allez voir, de ce que l'on peut appeler une maladie émergente, maladie infectieuse émergente. Je ne vous parlerai bien évidemment que de ce type de pathologie. Alors la définition d'une maladie infectieuse émergente, c'est assez large. Vous en avez tous entendu parler. C'est une maladie infectieuse dont l'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas, a augmenté au cours des 20 dernières années. On s'occupe bien évidemment ici que des hommes. Je ne vais pas vous parler des maladies chez les animaux, je ne suis pas vétérinaire ou pour les plantes. Donc vous voyez, au cours des 20 dernières années, il y a eu un certain nombre de maladies infectieuses dont on va reparler et dont vous avez déjà entendu parler. Et puis, il y a une autre partie de cette définition qui concerne le risque de voir augmenter cette incidence, c'est-à-dire donc de voir apparaître une augmentation d'un nouveau nombre de cas de maladies infectieuses dans un futur proche. C'est très, très, très large. Futur proche, c'est quoi? C'est dans 20 ans, 40 ans, 50 ans, un siècle. Vous voyez qu'on est assez flou en termes de définition. Mais sachez qu'aujourd'hui, en termes d'infection, de maladies infectieuses, on le connaît vraiment que la partie immergée de l'iceberg, on en découvre tous les jours, et je vais vous en donner un certain nombre d'exemples. Pour qu'il y ait une infection émergente, il faut trois choses associées, à savoir bien sûr un agent infectieux, s'il n'y a pas d'infection, il n'y aura pas de maladie émergente. Un agent infectieux, ça peut être, vous avez entendu parler de ça, une bactérie, ça peut être un virus, ça peut être un parasite, ça peut être un champignon. Ce sont les quatre types d'agents infectieux que l'on peut observer. Il faut bien sûr que cet agent infectieux soit en contact avec l'homme. S'il n'y a pas d'homme, il n'y aura pas d'infection chez l'homme. Et il faut un certain environnement, c'est-à-dire des conditions qui permettent à la bactérie ou au virus de se multiplier et d'être en contact avec l'homme. Vous allez voir qu'il y aura plein d'exemples que je vais vous donner. Important aussi à savoir, c'est qu'il n'y a pas de limite géographique. On parlera un peu de la grippe aviaire tout à l'heure. Grippe aviaire véhiculée essentiellement par des oiseaux sauvages. Il est certain que les oiseaux sauvages ne s'arrêtent pas, ce n'est pas marqué frontière en haut, pour s'arrêter d'un pays à l'autre, et donc il n'y a pas de limite géographique. Ce d'autant plus qu'actuellement, vous avez un développement de transport, au moins aérien, qui se développe, qui est très très important à la surface de la Terre, qui permet de véhiculer un certain nombre de ces agents infectieux. Mon PowerPoint est plein de virus, donc ne vous inquiétez pas. C'est une attaque biologique. On va essayer d'avancer. Voilà. Pour parler, je vais vous donner un certain nombre d'exemples concernant ces agents infectieux émergents. Et on va donner un exemple pour chacune de ces cases. Ces agents émergents peuvent être tout à fait inconnus. Je vais vous donner par exemple l'exemple du SRAS. C'était un agent une infection qui n'avait jamais été décrite auparavant. Pareil pour une maladie qui s'appelle Ebola. Vous avez sûrement entendu parler de ce virus en Afrique qui tue un certain nombre de sujets. Ça peut être la modification d'agents connus, c'est-à-dire des agents infectieux que l'on connaissait, qui sont un petit peu modifiés et qui sont responsables d'une nouvelle maladie chez l'homme. Par exemple, le virus de la grippe aviaire. Ça peut être lié à des transformations écologiques. Il fait plus chaud. La température à la Terre se réchauffe progressivement, donc il y a plus de pluie, il y a plus de mousson à certains endroits, donc il y a prolifération d'insectes. On peut voir apparaître, par exemple, un certain nombre de maladies virales dans certaines zones géographiques à la surface de la Terre. Ça peut être des maladies qui étaient associées à une pathologie connue ancienne. et pour lequel l'évolution de la médecine a permis d'obtenir des nouveaux outils qui ont permis de retrouver une bactérie comme étant l'agent causal de cette maladie. Un exemple, je crois que vous avez tous entendu parler des ulcères, un ulcère gastrique, un ulcère duodénal, nos grands-parents et grands-parents et tout ça, on parlait tout le temps. Il y a 50 ans, on vous traitait ça avec de la chirurgie. Aujourd'hui, on vous les traite avec des antibiotiques. Comme ça, vous guérissez de votre ulcère. Une maladie émergente peut être également liée à l'apparition dans des nouvelles zones géographiques d'un nouvel agent infectieux. Je vous donnerai des exemples comme le chikungunya, par exemple. Vous avez entendu parler ça en 2003-2004, qui est apparu à La Réunion et à Madagascar. Vous n'avez jamais entendu parler de ce virus avant dans ces régions. Il y a d'autres maladies qui sont très médiatisées. On a l'impression que c'est une nouvelle maladie, que les journalistes découvrent ce type de pathologie. Et vous verrez que c'est uniquement les journalistes qui en parlent parce qu'ils n'ont pas grand-chose à dire le dimanche midi lorsque vous regardez la télévision en déjeunant. Et donc, ils viennent vous voir pour parler d'une maladie. Vous avez l'impression qu'elle est nouvelle, alors que ce n'est pas le cas. Et on terminera dans 45-50 minutes avec le bioterrorisme, c'est-à-dire l'émergence virtuelle d'agents qui peuvent être utilisés à des fins terroristes, ce qui est un de mes dadas. En termes d'infection jusque-là inconnue, il y a un certain nombre de... Je vous donne à chaque fois quelques exemples, hein, moi je pourrais vous aller à l'infini. Il y a un certain nombre d'infections qui étaient complètement inconnues il y a une vingtaine d'années et qui ont été décrites à la surface de la Terre. Il a fallu du temps pour découvrir ces virus. Il a fallu du temps pour savoir d'où ils venaient. Et je vous en donnais quelques exemples. La plupart de ces virus appartiennent à ce qu'on appelle... aux fièvres virales hémorragiques. Je crois que vous êtes tous des adeptes probablement des feuilletons et des films à la télévision. Et vous savez très bien que de tous ces virus des fièvres hémorragiques, on les connaît très bien, ce qui est complètement faux. Qu'en 24 heures, on sait très bien qu'il y a un virus, et puis avec des chercheurs géniaux, on va en faire le diagnostic, on va savoir découvrir ces virus, c'est complètement faux. Le plus souvent, ces virus sont exotiques dans des lieux inaccessibles. Ça fait rêver tout le monde d'aller chercher un virus au fin fond de la forêt amazonienne. C'est vrai qu'il y en a plein que l'on ne connaît pas encore, mais la plus souvent, c'est faux. Contagiosité extrême, c'est vrai que ce type de virus peut être très contagieux. Et un seul cas à Paris, par exemple, entraînerait une panique des foules importante, mais la contagiosité est relative. Dès lors que vous prenez quelques protections simples, lavage des mains, blouse, par exemple, ou masque, généralement, il y a 100% de morts, sauf le héros, ça tout le monde le sait. Et généralement, le héros, il est beau, baraqué et bronzé. Mais tout le monde va mourir, sauf lui. Bien évidemment, c'est toujours les méchants qui ont balancé ça sur une ville. C'est un acte de bioterrorisme, c'est pas toujours vrai. Et en 72 heures, on trouve un traitement. Je peux vous assurer que pour ce type de virus, on n'a pas encore beaucoup de traitements. Donc tout ça, c'est des croyances populaires, bien évidemment. Ça fait partie d'un certain nombre de films que vous connaissez. J'ai oublié les titres de tous ces films. Je crois que c'est Urgence et puis... Outbreak, mais sachez que s'il y avait vraiment un type de virus comme ça à Paris ou en France, nous aurions quelques soucis de panique des foules, peut-être pas pour soigner les gens, mais en tout cas pour les calmer. Est-ce qu'on pourrait voir ce type d'infection arriver en France ? Bien évidemment, on sait très bien que de plus en plus, à cause de l'homme, il y a des contacts étroits qui s'exercent entre l'homme et certains réservoirs naturels, par exemple de virus dans des forêts, soit en Amérique du Sud ou centrale, soit en Afrique. On sait très bien qu'il y a l'agriculture intensive et des créations de barrages, par exemple, ça favorise la pullulation de rongeurs, ça favorise la pullulation d'insectes, ça favorise l'arrivée de troupeaux d'animaux au niveau de ces barrages pour nourrir, enfin, pour au moins hydrater ces animaux. Et donc on peut avoir... on peut véhiculer des virus comme ça et augmenter le risque d'épidémie avec l'homme. Et puis, il y a certaines actions sociales, a priori bienfaitrices, qui s'accompagnent malheureusement de virus qui se baladent un petit peu à la surface de la Terre. Je vais vous en donner tous ces exemples à partir de maintenant. Un virus, un exemple, celui de Marburg. Marburg, c'est une petite ville en ex-Allemagne de l'Est, donc en Allemagne actuellement, où dans les années 70, il y avait eu des singes verts, c'est une race de singes, qui avaient été importés d'Ouganda dans des laboratoires là-bas. Et les cellules, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais les cellules des reins de ces singes sont excellentes pour cultiver certains virus. Donc, l'objectif était non pas de faire des expériences sur les singes, mais de tuer ces singes, de récupérer les reins pour la culture virale. Et un certain nombre de chercheurs ont manipulé ces singes et se sont contaminés avec un nouveau virus qui s'appelle le virus de Marburg. Vous voyez qu'il y avait quand même 31 personnes qui ont été infectées avec 7 décès. Et puis, depuis, donc on a découvert ça dans les 70, et depuis, on a découvert un certain nombre d'épidémies, essentiellement dans la partie centrale de l'Afrique, dans l'ex-Zaïre, et essentiellement en République démocratique donc, du Congo, où il y a quelques épidémies chaque année, avec un virus, comme vous pouvez le voir, qui tue à 90% dès que vous êtes contaminé. Le cousin du Marburg que vous connaissez tous, c'est l'Ebola. L'Ebola, c'est un virus qui s'associe à une symptomatologie de fièvre hémorragique, c'est-à-dire que les gens saignent, ont la diarrhée, ont de la fièvre, se vident et meurent, et s'associe à une forte contagiosité interhumaine. Alors, ça survient essentiellement par petites épidémies également dans les mêmes zones géographiques. C'est une vieille carte d'Afrique, je suis désolé, il y a encore le Zaïre qui est inscrit dessus. Je vous rappelle que le Zaïre n'existe plus depuis un certain nombre d'années, hein, c'est la République démocratique du Congo, et il y a un certain nombre d'épidémies. Alors, plusieurs choses importantes à retenir, c'est qu'on peut également rapporter un certain nombre d'infections dans des laboratoires. Vous avez des laborantins qui se contaminent avec des virus. Est-ce vrai? N'est-ce pas vrai? Personne ne le sait, mais c'est une façon toujours élégante d'un point de vue bioterrorisme ou terrorisme pour alerter les voisins ou d'un point de vue économique pour alerter les petits voisins que l'on travaille dans nos laboratoires avec tel ou tel virus et qu'il faut faire attention. Vous voyez qu'il y a eu un cas rapporté dans un laboratoire en Russie, on se demande ce que Ebola va faire en Russie, ils travaillent dessus, mais c'est une façon élégante de dire aux voisins, attention, ne vous embêtez pas, on a du virus, on peut vous en envoyer un petit peu. D'où vient ce virus? On a mis près de 30 ans, je crois, à savoir d'où ça naît, et c'est très intéressant. On sait que le réservoir maintenant, c'est la chauve-souris. La chauve-souris est un animal qui véhicule un certain nombre de virus en Afrique et en Asie du Sud-Est. Et les chauves-souris, lorsqu'elles accouchent, je ne sais pas si on utilise le terme d'accouchement pour une chauve-souris, se pendent bien sûr à l'arbre. Vous avez le placenta chaud qui tombe par terre. Et en tombant par terre, il y a des grands singes qui se battent pour aller manger un morceau chaud, de viande chaude, vais-je dire, et se contaminent comme ça. Les singes en meurent. Et ça, on en était là. On connaissait la mort des singes avec ce virus. Et secondairement, vous avez les grands guerriers africains de certaines zones recluses de la République démocratique du Congo qui vont attraper ces singes. Et c'est toujours plus simple d'attraper un singe de 150 kg mort qu'un singe vivant de 150 kg, même si vous êtes super baraqué. Donc ces guerriers dépècent les singes et bien sûr, en faisant ça, en faisant des caressages, se blessent. Et c'est comme ça qu'ils vont se contaminer avec le virus d'Ebola et contaminer leur famille dans leur village en ayant la diarrhée ou en ayant des symptômes hémorragiques. Donc vous voyez, tout ça, on a mis 30 ans pour le savoir. C'est tout récent et c'est assez amusant. Une présentation clinique, je vous passe ça. Vous voyez que ça donne des signes un peu hémorragiques. La photo en bas, je la montre toujours, parce qu'on trouve rarement des photos de fièvre hémorragique chez des sujets de couleur blanche. J'ai mis 5 ans avant de percevoir que c'était une photo d'un film. Et non pas une vraie photo, mais vous voyez, c'est Kevin Spacey, c'est ça, dans le film précédent, avec un syndrome hémorragique. Un autre virus, toujours de fièvre hémorragique, pour tout ça, c'est des exemples. Il y a un virus que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le virus de Lassa, qui donne une symptomatologie assez identique d'une grosse grippe, mais avec des petits syndromes hémorragiques. Vous voyez qu'il y a entre 100 000 et 300 000 cas par an, quand même, en Afrique. On n'entend pas parler, on parle plus de petites maladies en France que de grosses maladies, malheureusement, qui tuent en Afrique. Et le problème de cette infection, c'est qu'elle peut être transmissible à l'homme, d'homme à homme, de façon clairement établie. Bon, le pourcentage est faible, mais on peut transmettre facilement cette maladie. Et il y a eu un certain nombre, ça nous intéresse un peu plus. Autant il n'y a jamais eu de Ebola rapporté en France ou en Europe, autant il y a un certain nombre de personnes qui ont travaillé en Afrique qui sont revenues en Europe avec ce type de virus, en attendant un certain nombre d'heures dans des services d'urgence d'hôpitaux, alors pas en France, mais en Allemagne et au Royaume-Uni, ainsi qu'en Hollande. Et vous voyez que ces personnes auraient pu contaminer les voisins. Fort heureusement, il n'y a pas eu de cas de contamination interhumaine rapporté. Le dernier cas, c'était quand même un homme d'affaires de Sierra Leone qui avait pris l'avion de Sierra Leone jusqu'en Belgique, qui de Belgique avait été ensuite à Amsterdam et de Amsterdam à Londres. Et à Londres, il était venu plusieurs fois aux urgences de l'hôpital. On le renvoyait à chaque fois, il avait 42 fièvres. Personne n'a pensé à lui rechercher le paludisme, qui est quand même la règle de base, et il aurait pu contaminer tout le monde. Donc ça fait couler beaucoup d'encre, en tout cas, au Royaume-Uni. Bon, un autre virus qui n'est pas très loin de chez nous, c'est le Crimée Congo. Ça se transmet essentiellement par contact avec des rongeurs et des animaux. Et vous voyez que depuis 2002, ça s'appelle la fièvre. Ça, c'est une fièvre noire hémorragique mortelle. Il y a eu un certain nombre de ce type de virus rapportés pas très loin de la France, donc à moins de 4 heures d'avion de la France, avec des épidémies qui sévissent actuellement dans le nord de la Turquie, du côté au nord d'Ankara. Donc c'est une zone où je vous déconseille actuellement d'aller vous balader. Il n'y a plus de cas rapportés chez les touristes. Je n'ai pas mis adapté à 2009 cette diapositive, mais il y a encore des cas actuellement. 2001, il y a eu la guerre au Kosovo, vous le savez tous, il y a eu quelques milliers de cas rapportés dans des conditions absolument dramatiques. Donc tout ça sont des virus, des fièvres virales hémorragiques qui sont vraiment très très récemment découverts. Est-ce qu'on pourra en voir en France? Bien sûr. Pour l'instant, il n'y a eu qu'un seul cas rapporté de Crimée Congo qui a été rapporté par une enseignante en 2003 ou 2004 à Rennes. Elle avait attrapé cette maladie à Dakar, mais elle est arrivée guérie, fort heureusement, à Rennes. Mais il n'y a jamais eu de réels cas de maladie contagieuse. Mais on peut très bien imaginer qu'on en verra à un moment ou à un autre, puisque vous avez un développement quand même des moyens de communication entre l'Afrique, où il y a le maximum de ce type d'infection, et la France. Même si je vous rappelle que, par exemple, un cas d'Ebola, ça survient malheureusement, chez des sujets africains, dans des petits villages reclus, chez des gens qui n'ont pas la possibilité de se payer un billet d'avion pour aller à Paris. Et malheureusement. Mais avec des médecins ou des infirmières de MSF qui se déplacent pour aller les soigner, donc ils peuvent toujours se contaminer et revenir à Paris. Est-ce qu'on pourrait en voir en France, bien sûr, donc comme je vous l'ai dit, avec des malades connus ou non, EVASAN, ça veut dire évacuation sanitaire, donc qui seraient évacués sanitairement d'Afrique en étant malades en France. Le pire des choses qu'on pourrait avoir, en tout cas en France, c'est des cas secondaires, c'est-à-dire une personne qui se serait contaminée avec ce type de virus à partir d'une personne malade qui ne le sait pas. C'est-à-dire vous vous retrouvez avec votre voisin qui n'a jamais été en Afrique, qui présente une fièvre hémorragique, tout ça parce qu'il était en contact avec un sujet malade, sans le savoir. Donc, allez penser au diagnostic, je ne suis pas certain qu'il y aura beaucoup de médecins qui penseront. Contamination de laboratoire, bien évidemment. Il y a beaucoup de laboratoires en France qui travaillent sur ce type de prélèvement de virus hautement contagieux, que ce soit à Pasteur ou à Lyon, à Pasteur-Mérieux, où il y a un laboratoire de très haute sécurité. Importation d'animaux, ça je vous l'ai dit, laboratoire, c'est le cas de Marbeur tout à l'heure. Mais en France, et surtout à Paris, vous avez une importation illégale très très importante d'animaux exotiques. Il y a une section de la BSPP, la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, qui est dédiée uniquement à ces animaux, c'est-à-dire pour intervenir dans les appartements de certaines personnes à Paris qui ont des lions chez eux, peut-être un 300 m². Mais avoir un lion dans un 300 m² à Paris, je ne suis pas certain que l'animal soit très heureux, mais une fois qu'il s'échappe de sa cage, ça fait des ordres. Généralement, le plus souvent, c'est des serpents, mais il y a beaucoup, beaucoup d'animaux, des panthères, de tout ce que vous voulez à Paris. Bon, ça c'est... Vous n'avez pas un voisin qui a ça chez vous, non? Un autre virus qui est apparu très récemment, on va s'étendre un peu plus, c'est le SRAS. SRAS, on a eu un certain nombre de cas en France, puisqu'on a eu 7 cas, il y a un patient qui est décédé, qui était un médecin cardiologue qui avait été qui est au Vietnam, à Hanoï, et qui était revenu par Paris en allant mourir à Tourcoing de cette infection. C'est une maladie dont vous avez tous entendu parler, puisqu'il y avait eu un certain nombre de cas rapportés entre mars et juillet 2003. Il y a eu près de 8000 cas avec 775 décès, ce qui n'est pas énorme. On en a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu des cas rapportés un peu partout à la surface de la Terre. Ça s'appelle une pandémie. Vous avez eu une infection à la surface de la Terre avec des contaminations interhumaines relativement importantes. Alors, les 8000 cas rapporté aux millions de cas de paludisme chaque année à la surface de la Terre, ou 10 millions de cas de tuberculose qu'on peut voir, c'est rien du tout. Mais encore une fois, ça a touché des pays économiquement puissants, à savoir l'Asie du Sud-Est, et puis des pays européens, et bien sûr le Canada et les États-Unis. C'est la raison pour laquelle on en a probablement plus parlé que pour ce type de pathologie qui n'atteint malheureusement que des sujets en Afrique. Origine de ce virus, on a eu de nombreux travaux qui ont été réalisés. Au début, on pensait que c'était des cafards, après ça a été des moustiques, après ça a été des tas de bêtes. On a pensé à un animal qui en haut, là, s'appelle la civette, qui est une espèce de petit rongeur qui, paraît-il, est très apprécié en Chine. Ça a une qualité gustative très très bonne. Après, on a pensé à un animal qui s'appelle le pangolin. Pangolin, vous voyez, il y a la maman et le petit sur le dos. C'est un fourmilier. Qui là également, il paraît-il, est très très bon, avec une viande qui ressemble au hérisson, pour ceux qui ont mangé du hérisson. Il paraît que c'est très tendre. Et puis finalement et ben on sait depuis 2-3 ans, tardivement, c'est la chauve-souris qui véhiculait ce virus et qui, à un moment ou à un autre, a dû contaminer un homme qui a été contaminé ses voisins. Et c'est ainsi qu'il y a eu 8000 cas rapportés en 2003. Les premiers cas étaient essentiellement au Vietnam, on vous en a beaucoup parlé. Donc vous imaginez que quand il y a une infection nouvelle, comme c'est une infection émergente qui survient dans un pays d'Asie du Sud-Est, genre SRAS, genre grippe aviaire, et ben les voyages entre ces pays et l'Europe, les États-Unis s'arrêtent. Donc il y a une grande perte économique. On n'achète plus de poulet, on n'achète plus de viande, on n'achète plus rien de ces pays. Et c'est une grosse perte pour eux. Ce qu'on sait très bien, c'est que c'est une infection qui, par la suite, était strictement humaine et qui se transmettait par contact interhumain très important. Quand je dis étroit, enfin très important, c'est étroit, c'est-à-dire moins d'un mètre pendant prolongé. Je vous dis toujours, ça c'est une information annexe, on me contacte sur vous souvent pour des méningites dans des lycées ou dans des universités. On est amené de temps en temps à vacciner tout le monde, ce qui à mon avis est une erreur, et à traiter tout le monde, ce qui est une large erreur. Pour se contaminer d'une méningite, il faut avoir un contact étroit avec votre voisin, prolongé, c'est-à-dire dans 2 heures, ou étroit, un petit copain, une petite copine, à moins de 90 cm. Donc vous voyez, c'est la notion d'étroitesse est importante. Donc ça, c'est un virus qui a beaucoup, beaucoup infecté le corps médical. C'est juste une petite diapositive de Hong Kong, des urgences de Hong Kong, où on vous met le nombre de personnes qui a été infectées les 10 premières semaines de l'infection. Il y avait à peu près 340 ou 351 personnes. Et vous voyez, en plein, ce sont le nombre de sujets appartenant au personnel médical ou infirmier. Et en pointillé, c'était les patients qui venaient aux urgences. Il aura quand même fallu 5 semaines ou 6 semaines aux médecins de cet hôpital pour s'apercevoir que cette infection se transmettait par voie aérienne et que le fait de mettre un masque, eh bien, ça supprimait le nombre de contaminations des médecins. Beaucoup de médecins sont souvent infectés par leurs patients, les infectiologues en premier, et surtout les pédiatres, hein, qui sont toujours en contact avec des petits-enfants qui hurlent, qui crient, qui vous crachent dessus et qui vous transmettent bon nombre de virus. Donc les pédiatres sont en permanence malades. Mais là, il a fallu quand même 6 semaines avant de s'en apercevoir. Nouvelle infection, on ne savait pas ce que c'était comme infection, on n'avait jamais entendu parler. Ça donnait ce type d'atteinte pulmonaire, ça ne vous dira peut-être pas grand-chose, mais quand on a un poumon comme ça, sur la radio ou sur le scanner, c'est que vous vous retrouvez en réanimation avec une machine qui vous permet de respirer, et vous avez des poumons très très abîmés, qui peuvent entraîner la mort. Ce qui a été étonnant avec ce virus, c'est que pour la première fois au monde, vraiment, la première fois, il y a un certain nombre de laboratoires, il y a une douzaine de laboratoires sur la Terre qui ont uni leurs efforts pour essayer de savoir quel était l'agent qui était responsable de cette infection dont on n'avait jamais entendu parler. Alors au début, on a cru que c'était des tas de virus, des tas de bactéries, des tas de choses, je vous passe les détails, et il aura fallu 12 semaines. 12 semaines, c'est très très court. Tuberculose, ça a été des siècles et des siècles avant de découvrir ce que c'était. Là, en 12 semaines, on a découvert le virus. On l'a analysé, on l'a regardé au microscope, on l'a découpé en morceaux, et on a pu savoir que c'était un virus qui s'appelait un coronavirus, corona en forme de couronne tout simplement, qui appartient à une famille de virus qui est responsable essentiellement de maladies chez l'animal. Donc les vétérinaires connaissaient bien cette maladie, mais pas les infectiologues. Et donc en moins de 12 semaines, on a tout trouvé. On sait le cultiver, on sait en faire le diagnostic. On l'a complètement décortiqué, tout ça, c'est des séquences d'ARN, enfin de protéines et d'acides aminés de cette de ce virus, ça n'a jamais été aussi rapide. Ce n'est pas pour autant qu'on a un traitement. On a pu l'analyser, ce qui était quand même énorme. Et vous voyez que c'est un virus quand même qui tuait essentiellement cette fois-ci. Et c'est tout à fait le contraire avec le virus H5N1, qui tue essentiellement les sujets âgés. 65 ans, ce n'est pas très âgé, mais dans les pays d'Asie du Sud-Est, en tout cas, c'est excessivement âgé. 50% des sujets qui avaient plus de 65 ans, qui avaient cette infection, en mouraient. Par contre, chez les sujets de moins de 18 ans, il n'y a eu aucun cas de décès rapporté. Pourquoi? On ne le sait toujours pas. Il y a des mystères quand même qui persistent, heureusement. Deuxième petite case, pour vous donner des exemples, c'est les modifications d'agents infectieux connus comme agents émergents. Je vais vous parler du virus donc H5N1. Tout le monde en parle et je ne vais pas vous en parler pour vous effrayer, mais presque. Juste quelques définitions. J'ai horreur de faire des définitions et je suis certain que vous avez horreur des définitions, n'est-ce pas? Bon, mais pourtant, Dieu sait que c'est bien des définitions. Une fois qu'on les connaît, on les connaît pour le restant de sa vie. Ça permet de faire des problèmes de maths, de physique, etc., etc. Bon, je passe. La grippe, vous connaissez tous la grippe. Je pense qu'ici, tout le monde a eu au moins une fois ou deux un épisode de grippe ou a eu l'impression d'avoir, en tout cas, la grippe. Et il y a trois sortes de grippe. Il y a la grippe saisonnière que vous connaissez tous. Vous savez, c'est ce virus qui, chaque année, évolue par petites épidémies. Là, on est en plein dedans, enfin, même si c'est la queue de l'épidémie actuellement en France. Mais on était en plein dedans, en tout cas, il y a 15 jours. C'est ce petit virus qui vous fait tousser, qui vous donne de la fièvre. Vous avez mal partout, dans les muscles, les articulations, mal à la tête, etc. Ça dure 4-5 jours. Et puis, vous allez en guérir spontanément. C'est pas grave, la grippe. Il y a juste un coût économique important, puisque tout le monde s'arrête. Tout le monde se contamine, et puis c'est vraiment rien du tout, parce qu'il n'y a que 6000 décès par an en France. Donc oui, je dis ça en plaisantant, c'est donc une maladie grave, il faut bien se mettre ça dans la tête, il ne faut pas mettre de côté le fait que c'est une simple petite maladie. Il y a autant de morts par grippe en France que d'accidents de voiture, si je ne m'abuse, hein, à peu de choses près. La moitié des suicides en France. Et puis c'est un virus chaque année qui évolue un tout petit peu, il mute un tout petit peu, donc c'est la raison pour laquelle les vaccins que l'on peut vous faire, et je vous encourage tous à vous faire vacciner chaque année, ne préviennent qu'en 95-98% la grippe d'une année sur l'autre. En termes de reconnaissance du virus, même si le vaccin lui-même ne protège qu'à 60-70%. Donc ça c'est la grippe saisonnière, chaque année, épidémie. Ça peut être grave quand même, on ne plaisante pas avec la grippe. Il y a des traitements, il y a des vaccins, faites-vous vacciner, au moins pour protéger les autres. Il y a une autre grippe, alors celle dont on parle actuellement, qui est une grippe finalement qui ne nous intéresse pas trop, ça s'appelle la grippe aviaire. J'aime pas le terme de peste aviaire parce que c'est un terme vétérinaire. Peste, c'est pour les infectiologues, c'est une bactérie. Et là, c'est un virus, donc ça n'a rien à voir. Mais c'est un terme vétérinaire souvent utilisé. Donc la grippe aviaire, c'est la grippe des animaux. Pas de l'homme, des autres animaux. Et de façon très exceptionnelle, l'homme peut s'infecter. Mais généralement, quand on s'infecte, je vous donne des exemples, c'est on a un peu mal dans les muscles pendant 48 heures, un peu de conjonctivite, et tout ça, ça passe. Ça, c'est la grippe aviaire habituelle. Et vous allez voir qu'avec la nouvelle grippe aviaire qui apparaît, il y a quelques petites nuances à apporter. Et puis, le troisième type de grippe, ça s'appelle la pandémie, c'est-à-dire que vous avez à la surface de la Terre, l'apparition d'un nouveau virus grippal pour lequel l'homme n'a jamais eu de contact, avec lequel l'homme n'a jamais eu de contact. Et donc ce type de virus, ça tue. Ça tue énormément, pour différentes raisons que je ne vais pas détailler. Mais pour vous donner un exemple, la première pandémie de grippe au siècle dernier, au XXe siècle, c'était la grippe espagnole, qui a tué, on ne sait pas très bien, mais en gros, entre 30 à 100 millions de gens à la surface de la Terre, c'est-à-dire un peu plus que la Première Guerre mondiale. Donc ce n'est pas à prendre à la légère. Et le grand risque, c'est de voir se transformer un virus aviaire en un nouveau virus qui serait responsable d'une pandémie très bientôt. Et je vais vous expliquer comment ça se passe. Bon, la grippe saisonnière, on passe dessus, je vous en avais parlé, hein. Vous le connaissez, comme la dame au troisième rang, elle a mal, elle est fatiguée, elle dort, elle a un peu de fièvre, tout ça, ça rentre en 4-5 jours, et il n'y a pas de souci. Comment ça se transmet? C'est très important, retenez ça aussi, la grippe standard, ça se transmet soit parce que vous éternuez, vous toussez, Et en France, en Europe, aux États-Unis, tout ça, on ne sait pas tousser, on est super impoli. Mais qu'au Japon, où ils ont quand même un certain nombre de décennies d'avance sur nous, en tout cas en termes de santé publique, c'est qu'un Japonais, quand ça éternue, ça ne met pas la main devant la bouche. Déjà dans le métro, personne ne met la main devant la bouche si vous prenez le métro. C'est rare, donc c'est pire. Et éventuellement, vous mettez la main devant la bouche, mais après, vous allez serrer la main de votre copain, donc vous allez lui transmettre le virus comme ça. Et au Japon, ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils mettent le pli du coude devant leur bouche, en éternuant, en toussant, comme ça, ils ne risquent pas de transmettre à autrui ce virus. Donc, ça se transmet en éternuant, bien évidemment. Donc, il faut utiliser des mouchoirs en papier et jeter ça systématiquement, pas des mouchoirs en tissu que vous allez garder et vous allez vous recontaminer. Si vous allez traîner ça, et le virus peut rester vivant quand même pendant une semaine à 37 degrés. Hein. Et puis, par aérosolisation et par les mains. Il faut savoir ce qu'on appelle le R0, vous oubliez le R0, mais ça veut dire que c'est le nombre de personnes que l'on peut infecter à partir d'un sujet contact. Donc quand vous avez la grippe, vous pouvez contaminer 2 à 3 personnes. Et le meilleur endroit où on peut attraper la grippe, c'est l'école. Regardez, vous êtes tous réunis, une grande promiscuité, tout le monde éternue, tout le monde est fatigué, on vous fait beaucoup travailler, vous êtes fatigué, milieu déprimé, pas de vacances. Bon. Donc ça c'est la grippe standard. L'épizootie, c'est-à-dire la grippe aviaire, celle dont je vous ai parlé, ça donne des grippes chez le poulet, chez l'animal. Et vous voyez que j'ai un certain nombre d'exemples où il y a eu c'est des maladies qui sont très fréquentes, qui sont responsables de grippes chez le poulet, qui tuent le poulet. Ça coûte très cher, ça a des coûts économiques importants, mais ça ne tue que le poulet, d'accord ? Ou l'animal. Alors, généralement, vous partez un soir, vos poulets vont bien, vous revenez le lendemain matin, ils sont tous morts. Ils éternuent. Un des premiers signes, je vous dis ça parce qu'il y a des journalistes qui parlent beaucoup, et ça j'ai souvent été interrogé là-dessus, sur les œufs et le H5N1, donc la grippe aviaire. Comme les poulets sont malades, ils pondent plus. Donc c'est certain déjà que vous n'aurez pas d'œufs infectés parce qu'ils pondent plus. Et au cas où les œufs seraient infectés, votre acide chlorhydrique de l'estomac va détruire complètement ce virus. Bon, enfin en tout cas, le poulet, lui, il meurt à 100%. Heureusement que l'homme n'est pas comme ça. Est-ce qu'on peut avoir une transmission interhumaine de ce virus aviaire ? Sur les quelques épidémies rapportées, on peut avoir, il y en a des millions de poulets atteints, mais on peut avoir une ou deux personnes chaque année qui sont infectées, mais avec à chaque fois un petit syndrome viral, un petit syndrome grippal, j'ai mal dans les muscles, un peu de conjonctivite, mais c'est rarissime. Il y a eu un seul cas jusqu'à présent, qui est en 2007 aux Pays-Bas, d'un vétérinaire qui avait eu une maladie dans un élevage de poulets, qui en est décédé. On en a beaucoup parlé en 2003, parce que jusqu'à présent, on n'avait jamais eu de décès avec ce type de virus, en tout cas pas le H5N1. Et puis, avec le H5N1, c'est un peu nouveau. Il y a quelque chose qui évolue, à savoir que depuis que je vous ai donné des notions d'épidémie, qui sont généralement localisées dans des pays ou dans des élevages particuliers, avec le H5N1, c'est devenu ce qu'on appelle une panzoocie, T-I-E, on dit si, qui a atteint un certain nombre de pays. La quasi-totalité des continents ont rapporté en tout cas des atteintes animales avec ce H5N1. Vous voyez le 1er février, il y avait 65 pays qui ont rapporté à la surface de la Terre quand même ce type d'épidémie, ce qui est énorme. C'est pas uniquement un pays. Et quand il y a une infection dans un pays, on n'arrive pas à endiguer cette épidémie. Ça, c'est un gros problème, avec un impact économique important. Et surtout, je vous ai dit qu'avec les virus des grippes aviaires, il y avait très rarement des atteintes humaines. Mais là, avec ce virus, au jour d'hier, au 2 février 2009, depuis 2003, il y a eu 404 cas de personnes contaminées, ce qui est rien. C'est rien du tout. Vous allez me dire qu'on parle beaucoup pour 400 personnes, ce qui est rapporté à d'autres maladies. Certes, c'est rien. Je vous dis qu'avec les autres, il y en avait zéro. Et surtout, il y a eu 254 décès, c'est-à-dire qu'il y a 63% de mortalité. Voilà, ça veut dire qu'on a affaire à un nouveau virus bon, qui donne une symptomatologie, je vous passe ça, qui risque d'évoluer vers la pandémie. Je vais vous expliquer pourquoi après. Juste être diapositive pour vous dire que ce virus tue essentiellement les sujets jeunes, les enfants, et plus rarement les sujets âgés, contrairement aux SRAS. On ne sait pas tellement pourquoi, probablement parce que les enfants qui sont atteints dans les zones d'Asie du Sud-Est sont peut-être plus souvent en contact avec les volailles que les sujets un peu plus âgés. Peut-être également que les sujets âgés dans ces pays, lorsqu'ils sont malades, on ne les envoie pas à l'hôpital. Ils restent chez eux, ils meurent chez eux, et puis on n'est pas au courant de ce qui se passe. Ou peut-être que ces sujets âgés, et ça on travaille là-dessus, ont peut-être une immunité qui les protégerait de cette infection. C'est-à-dire, est-ce qu'ils auraient été en contact dans les décennies précédentes avec des virus qui auraient favorisé leur immunité, l'acquisition d'immunité, d'anticorps protecteurs vis-à-vis du H5N1 ? On ne sait pas. On cherche actuellement. Ce que l'on sait, c'est qu'actuellement, ce virus H5N1, il y a eu des animaux sauvages, il y a des baleines, il y a des phoques, il y a des tigres, il y a des girafes qui ont été contaminés, et que le grand risque, c'est d'avoir soit du virus H5N1 qui se transmette en mutant, c'est-à-dire en changeant radicalement, en s'humanisant et en transmettant ce virus à l'homme. Donc là, c'est la flèche verte, peu probable, peu probable. Mais le virus peut complètement muter, clac, il atteint l'homme. Soit le virus du poulet va contaminer un cochon, et les cochons sont les seuls animaux qui soient capables de faire à la fois des grippes aviaires et des grippes humaines. Et si vous avez un cochon qui se contamine avec un virus d'un poulet, en même temps que la personne qui s'en occupe, l'éleveur, est infectée de la grippe, et c'est comme ça que c'est parti au siècle dernier, vous avez une recombinaison de ces virus, ils vont échanger du matériel génétique, et vous allez avoir un nouveau virus qui va être transmis du cochon à l'homme, un virus pour lequel l'homme n'a jamais été en contact. Soit le poulet transmet ça à l'homme avec un homme qui est infecté, mais ça n'a jamais été décrit. Et bien vous avez un risque de vous retrouver avec un nouveau virus pour lequel l'homme n'aura pas d'immunité. Le virus pourra se répliquer dans l'homme et il pourrait y avoir une transmission interhumaine. Et alors là, on aura une pandémie. Et la pandémie, ça ne fait rire personne parce que je vous ai donné des chiffres tout à l'heure. Vous voyez, il y a eu quatre pandémies au siècle dernier, mais les trois principales, c'était entre 30 voire 100 millions pour la grippe espagnole en 1919, 1 million pour la grippe asiatique en 1957 et près d'un million à Hong Kong en 1968. Vous voyez que c'était un virus qui tue. Vous imaginez les conséquences humaines, les répercussions économiques, les répercussions de plein de choses en cas de pandémie. Et on sait très bien que malheureusement, cette pandémie, elle devrait arriver très bientôt. On ne sait pas quand, mais elle va arriver. Si la pandémie arrive en France, c'est-à-dire s'il y a eu des modélisations, c'est-à-dire des calculs mathématiques pour apprécier cette pandémie, ou en tout cas le retentissement de cette pandémie en France, vous voyez que s'il y a, en étant optimiste, uniquement 15% de la population française qui est atteinte par ce virus, il y en aura quand même 9 millions, bien sûr, de sujets infectés, 9 millions en France sur 63, et puis vous aurez entre 60 et 130 000 décès. Ça fait un peu plus que la vague de chaleur de 2003. S'il y a 35%, ce qui est tout à fait possible, on montera jusqu'à 300 000 décès. Vous voyez de la carte en France, tout ça en 6 mois, une grande ville, ou trois grandes villes de 100 000 habitants, ça fait beaucoup. Vous imaginez les conséquences économiques, les écoles seront fermées, vous serez tous contents, certes, mais vous ne serez plus à l'école, vous serez obligé de rester à la maison peut-être parce qu'il faudra garder vos frères, sœurs, etc. malades, vos parents ne pourront pas aller forcément travailler parce qu'ils seront malades, l'hôpital nous sera bloqué parce que les infirmières, les crèches seront fermées, donc elles seront obligées de ne pas venir travailler pour garder leurs enfants, elles seront malades également, le mari sera malade, donc elles seront obligées de rester à la maison. Enfin, ça, il y aura des conséquences dramatiques, même si beaucoup de choses sont prévues. Par exemple, quand vous irez faire vos courses, vous passerez au supermarché du coin, vous n'aurez pas le choix dans 50 lessives. Hein. Vous aurez un rayon, clac, vous aurez la lessive X, donc vous aurez le droit de prendre que cette lessive X, pareil pour les pâtes, etc., pour vite faire vos courses et sortir du supermarché sans avoir à vous poser la question « Quelle lessive vais-je prendre devant ce rayon où vous en avez 350 marques ?» Bon, pour la pandémie, il y a beaucoup de choses qui sont prévues. Est-ce que ça marchera? Est-ce qu'on prévoit correctement? Sûrement. Mais comme toujours, dès qu'il y a une pandémie, dès qu'il y a un problème infectieux majeur en France, on s'arrange toujours un peu au dernier moment, même si on a tout prévu. La seule chose qui soit fondamentale en cas de pandémie, je le répète, ce sera la fermeture des écoles. Bien évidemment, des musées, des cinémas et des théâtres, mais c'est la seule chose. Restreindre tout ce qui est transport, travail et autres, ça, on ne le fera pas, ça ne servira à rien. Fermer les aéroports, ça ne sert à rien. Quand il y a une épidémie majeure, une pandémie majeure comme ça, fermer un aéroport, ça ne retarde que 2-3 semaines ou 4 semaines, c'est des études qui ont été réalisées, l'arrivée d'une épidémie dans votre pays. Donc ça ne sert vraiment pas à grand-chose. Donc est-ce qu'il y aura une pandémie? Oui, ça c'est sûr. Le seul problème, c'est quand, et ça je ne sais pas. Est-ce que ça sera un virus très pathogène? On ne sait pas, moyennement pathogène. Très pathogène, ça serait bien. Parce que quand c'est très pathogène, ça tue très vite. Donc vous ne pouvez pas vous contaminer d'homme à homme facilement. Quand c'est un virus pas pathogène du tout, pas très virulent, c'est pas grave parce qu'on a les traitements pour traiter les gens. Il y aura la grippette comme une grippe saisonnière. Par contre, le virus intermédiaire avec un virus moyennement virulent sera le plus embêtant puisqu'il y aura pas mal de morts avec des transmissions interhumaines importantes. Donc ça va venir un jour et ça ne fait, enfin, ça fait rigoler personne, quoi, malheureusement. D'autres cas de virus, les infections émergentes ou dans des zones qui étaient inconnues, ça aussi c'est des virus émergents. Je vais rapidement aller sur ce virus qui est très intéressant, vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle le West Nile virus. C'est un virus qui s'associe le plus souvent à une symptomatologie également pseudo-grippale et qui a été découvert dans les années 40 en Ouganda. Mais surtout en France, il y a eu quelques cas rapportés dans les années 60 et dans la Camargue. Vous savez que la Camargue, c'est un endroit je vais y arriver, où il y a un passage d'oiseaux, d'animaux sauvages, des chevaux importants. Et les oiseaux sauvages qui passent par là, migrateurs, véhiculent ce virus le plus souvent de la vallée du Nil, West Nile. Donc le plus souvent d'Israël, ils viennent et se posent en Camargue et vont contaminer des oiseaux, des insectes, voire des chevaux de façon annexe. Et l'homme se contamine exceptionnellement avec ce virus lorsque vous avez un insecte qui va le piquer. Encore une fois, les signes cliniques, c'est pas grand-chose. Un peu de fatigue, un peu de fièvre. Le plus souvent, vous n'avez aucun signe clinique et c'est pas grave. Mais lorsque vous avez quelques tares, en état en médecine, c'est-à-dire une maladie chronique, vous pouvez avoir des troubles neurologiques et en mourir. C'est toujours embêtant d'avoir des gens qui meurent d'une infection, bien évidemment. Ça, c'est les cas rapporté en France dans les années 60 à 80, à 2000, il y a souvent essentiellement des animaux qui ont été atteints, un peu moins d'hommes. En 2003, 2004, 2006, il y a un peu tout le pourtour méditerranéen, ça s'étend maintenant avec des cas rapportés essentiellement chez l'animal, chez le cheval. Si on fait des études de sérologie, c'est-à-dire qu'on prélève, on cherche des sérologies positives chez des sujets, on retrouve des prélèvements positifs sans que les sujets aient montré le moindre signe clinique. Et voilà, donc ça c'est une maladie qui s'étend en France. Mais la pire chose qui est arrivée, c'est pas la France, ce sont les États-Unis. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, en octobre 1999, à New York, est apparue cette maladie pour la première fois. Il n'avait jamais été décrit auparavant. C'était une maladie qui était restreinte à l'Afrique et à l'Europe, mais il n'y avait jamais eu de cas sur le continent américain. Okay. Et puis en octobre 1999, à New York, il y a eu quelques cas qui ont été rapportés. Je crois qu'il y a 67 cas qui ont été rapportés. Je ne sais pas si vous vous rappelez du maire de l'époque, qui s'appelait Giuliani, qui avait fait vaporiser sur tout New York par des hélicoptères des substances insecticides pour tuer des moustiques qui véhiculaient ce virus. Et puis en dépit de ça, et bien, petit à petit, le virus a gagné tous les États-Unis, le Canada, le Mexique, les Caraïbes. Et en termes, je n'ai pas actualisé ça en 2008, mais fin 2007, alors qu'il n'y avait jamais eu de cas avant 1999, vous voyez qu'il y a eu près de 30 000 cas avec 1 000 décès. Ce qui est énorme, donc ce qui constitue réellement une maladie émergente aux États-Unis, un grand problème de santé publique. Ils en parlent très régulièrement aux informations là-bas et les unités de santé publique travaillent beaucoup sur ce sujet qui, comme vous avez vu, en France, c'est rien, mais là-bas, c'est quand même un certain nombre de décès. Alors, comment le virus est apparu d'Europe ou d'Afrique aux États-Unis? Il y a eu un certain nombre d'hypothèses qui ont été levées. Est-ce qu'il y a une importation d'oiseaux exotiques contaminés? Et contrairement à ce qu'on pourrait le croire, il y a un certain nombre d'oiseaux importés de façon illicite aux États-Unis. Est-ce que ce sont des moustiques dans des avions qui sont provenus d'Israël? Parce que c'était le même virus d'Israël de 1999 et celui retrouvé aux États-Unis. Peut-être. Vous savez qu'on aérosolise, on vaporise des produits anti-moustiques dans les avions. Est-ce qu'il y a eu l'idée de réfugiés européens ou africains qui venaient infectés, donc avec du virus dans le sang, qui se faisaient piquer par des moustiques, et les moustiques allaient piquer d'autres personnes? Mais je n'y crois pas trop, le bioterrorisme sûrement pas. Et on pense aujourd'hui que ce sont plutôt des oiseaux infectés qui sont venus directement de Tel Aviv ou d'Israël à New York. Alors, ne me demandez pas pourquoi c'est New York. Ils ne sont pas arrivés à Boston, à Washington ou un peu plus, enfin, ailleurs sur la côte est des États-Unis. C'est comme ça, je ne sais pas. Et on sait très bien que les oiseaux partent d'Israël, passent par la Camargue, passent par le nord de l'Angleterre. Mais le nord de l'Angleterre, c'est une zone un peu froide, il n'y a pas de moustiques. Ils arrivent après à New York et tout ça en 7, 8, 9, 10 jours. Donc ils volent de façon non-stop en 10 jours, ils perdent un certain nombre de poids, mais ils véhiculent ce type de virus. Donc il semblerait que l'introduction de ce virus émergent aux États-Unis, qui était connu en Europe depuis longtemps, soit réalisée par ce biais. Très rapidement, chikungunya, tous entendu parler, virus, je suis sûr qu'avant 2005, personne n'avait été capable de prononcer ce mot. Le cousin, c'est le Wanyunyun. Ça, c'est le chikungunya, qui est un virus qui est connu depuis longtemps en Afrique, dans la zone d'Afrique du Sud et du Kenya. Et puis, une importation via l'homme uniquement de ce virus à Madagascar, à Mayotte et puis à La Réunion, où je rappelle qu'à La Réunion, il y a eu un tiers de la population qui a été atteinte avec des douleurs musculaires, articulaires et épouvantables qui peuvent perdurer jusqu'à un an après le début de l'infection. Un certain nombre de décès, en tout cas une surmortalité au moment de l'infection. C'est un virus véhiculé par des moustiques. Donc alors, pour ceux qui connaissent La Réunion, c'est un lieu où il pleut souvent. Il y a surtout beaucoup de pneus, de gîtes larvaires pour les moustiques. Donc il a fallu décontaminer tout ça. Ça a coûté très cher et ça a pris beaucoup de temps. Et il y a eu une surmortalité de 240 ou 250 décès. Bon, est-ce que c'est le chikungunya qui a tué ou est-ce que ce sont simplement les Réunionnais un peu fragiles qui sont morts à l'occasion de cette infection? On pense plutôt que c'est la seconde partie. Vous savez que malheureusement là-bas, il y a un certain nombre de personnes qui boivent beaucoup, donc avec des cirrhoses, des atteintes alcooliques très importantes, et ça serait survenu un peu plus chez ces enfants. Donc tout ça est véhiculé par l'homme, mais surtout par un moustique qui s'appelle Aedes albopictus. Et Aedes albopictus, pour vous donner une idée, est dans le sud de la France, à Nice. Donc est-ce qu'un jour ça va arriver du côté de la France métropolitaine? Probablement. Il y a des cas qui ont été rapportés en Italie l'année dernière, en juillet l'année dernière. Tout ça parce qu'il y a des touristes, un virus qui fait le tour du monde actuellement. Un virus qui fait le tour du monde. Il y a eu des cas en Inde et certains touristes italiens ont été en Inde, se sont contaminés en Inde, ont réimporté le virus. En Italie, ils se sont fait piquer par des moustiques qui ont été piqués les voisins. Donc, il y a une épidémie qui a été décrite là-bas. Donc, est-ce que ça surviendra à Nice? Peut-être un jour, avec le réchauffement de la planète, c'est possible. Mais non, c'est pas dégueulasse. Tout va bien, je vous rassure. Oui, tout va bien. Ça, c'est une histoire assez amusante. Un autre cas de maladie émergente, où il n'y en a pas eu beaucoup. Vous connaissez tout. Est-ce que vous connaissez la variole? Oui, bon. La variole, c'est une maladie qui est éradiquée à la surface de la Terre depuis 1978, de façon officielle, après les campagnes de vaccination massive de l'OMS à la surface de la Terre. Et il y a un certain nombre de virus de la variole, des cousins, qui donnent des varioles chez certains animaux. Alors, on donne le nom de monkeypox, ça veut dire variole du singe. Il y a le camelpox, c'est la variole du chameau. Il y a le mousepox, etc., le housepox. Horsepox, pardon, pour le cheval, et ça n'atteint que ces animaux. Et de façon exceptionnelle, on peut avoir des atteintes humaines avec ce virus qui ne se transmet pas comme la variole dans les régions d'Afrique centrale de l'Ouest. Et en juillet 2003, de façon très très intéressante, il y a eu un certain nombre de ce type d'épidémie, une épidémie comme ça avec ce monkeypox, rapportée dans la région de l'Illinois, du côté de Chicago. Et il va falloir suivre. Vous savez ce que c'est comme animal en bas, là? C'est un rat. C'est un rat doux. Non, c'est un rat de Gambie. C'est un petit rat de Gambie, c'est comme ça, qui, la Gambie n'étant pas du tout à côté du Ghana, mais enfin à distance quand même, c'est un rat de Gambie qui est provenu du Ghana, d'Accra, qui est la capitale du Ghana, et qui a été importé de façon illicite à Chicago. À Chicago, il y a des animaleries où on vend plein d'animaux, comme j'imagine à Paris. Et puis à droite, vous savez ce que c'est? On s'appelle un chien de prairie, c'est en effet une marmotte. Ce sont des animaux qui peuvent faire, paraît-il, jusqu'à 50-60 cm de hauteur, qui sont des animaux largement appréciés de compagnie aux États-Unis, j'en ai jamais vu. Et ce sont des animaux surtout qui dévastent les prairies des agriculteurs dans la région de l'Illinois. Et pour attraper ces animaux, il y a des énormes aspirateurs qui font la taille des trous. Donc les agriculteurs mettent ça dans les trous, ils aspirent ces chiens de prairie, il y en a 60% qui sont déchiquetés, et ceux qui sont vivants sont vendus dans des animaleries. Et donc dans une animalerie à Chicago, il y avait un contact entre ce rat de Gambie qui venait du Ghana, en contact avec des chiens de prairie. Et ce rat contenait un virus qui était le monkeypox, il a transmis ça aux chiens de prairie, chien de prairie qui a été vendu à une famille, alors que c'est un animal tout à fait gentil, il a commencé à mordre des enfants. avec des lésions que vous voyez, mais c'est rien du tout. Hein. Oui, il a mordu, alors que c'est un animal, paraît-il, qui ne mord jamais. La famille, en ayant assez, ils l'ont passé aux voisins, etc. Donc dans le quartier, l'animal a fait tout le tour du quartier, et il y a eu 40 cas de confirmés de maladies comme ça dans cette région, alors que c'est une région où il ne devait pas y avoir de ce type de virus. Donc c'est vraiment de l'importation illicite d'animaux aux États-Unis. Infection émergente, transformation écologique, on sait très bien que d'ici la fin du siècle, du notre siècle actuel, il y aura une augmentation de 2 à 5 degrés de la température à la surface de la Terre, température moyenne. Quelles en seront les conséquences? Je n'ai pas les compétences pour vous en parler, mais très probablement que l'on verra réapparaître un certain nombre d'infections en France, par exemple, pour parler que de la France, comme la dengue, comme le paludisme. On rappelle qu'il y avait du paludisme en France jusqu'en 1944 en Camargue. Il y en avait à l'époque de Louis XIV, Louis XVI, quand ils ont construit le château de Versailles. Les gens mouraient du paludisme, parce qu'il a fait très chaud, certes, à Versailles, mais ça existait. En France, il n'y a plus de paludisme, hein, sauf d'importation. Donc il y aura probablement des conséquences très importantes, et on sait que la main de l'homme ou les modifications climatiques actuellement peuvent s'associer à l'apparition de nouvelles infections. Alors peu importe, des barrages, tout ce que vous voulez, l'intensification de l'agriculture, etc. Tout ce qui est mauvais, entre guillemets, j'aime pas ce terme de mauvais, mais ça peut favoriser la population de moustiques, d'animaux, etc., donc d'infections. Urbanisation, pas de sanitaire, contamination de l'eau, le choléra. Actuellement, il y a quand même des épidémies de choléra en Afrique. Il y a eu 50 000 décès sur les mois derniers. Mais même la main de l'homme, lorsqu'il veut être bon, c'est-à-dire reforester, ça peut être nocif. Si vous plantez des arbres partout, vous pouvez avoir beaucoup plus de tiques et donc beaucoup plus d'une maladie qui s'appelle la maladie de Lyme, par exemple. Bon. Donc tout ça, c'est un peu compliqué. Un exemple d'un nouveau virus. Par exemple, je vais prendre lequel là. Allez, le Machupo. Machupo, il y a 10 cas par an. Non, le Guanarito. Il y a 10 cas, une centaine de cas par an. Et tout simplement, c'est au Brésil, ou un peu au-dessus, au Venezuela, tout simplement parce qu'il y a une agriculture intensive qui se crée, donc il y a une déforestation. Qui dit agriculture intensive dit pullulation de rongeurs. Pullulation de rongeurs qui véhiculent ce virus, peu importe lequel, le Guanarito. Et en étant infectés, ces petits rongeurs sont pris dans les moissonneuses batteuses des agriculteurs qui ramassent le blé, tout ce que vous voulez. Donc ils sont déchiquetés, il y a une aérosolisation, une pulvérisation du sang de ces animaux dans l'air, et les agriculteurs se contaminent comme ça. Vous voyez, bon, ça donne des petits savons hémorragiques qui guérissent tous, mais c'est une histoire assez amusante. Bon, ça je vous passe à notre cas de Fiadelle Duris. Des échecs de santé publique visant à supprimer une infection, ça on en parle beaucoup. Je vais juste vous parler de la syphilis. Vous savez que la syphilis est une maladie qui est une maladie bactérienne, qui est une maladie sexuellement transmissible, et que, certes, et à déclaration obligatoire, c'est-à-dire que dès que vous avez la syphilis, on doit vous déclarer et on doit vous traiter. C'est-à-dire si vous refusez de vous faire traiter, il n'y a pas beaucoup de maladies comme ça en France, on peut appeler la police, dire « Monsieur Dupont refuse, la syphilis refuse de se faire traiter » et la police viendra vous chercher pour qu'on vous traite. C'est comme ça. Ce qui n'est pas le cas pour le VIH ou pour la tuberculose. C'est historiquement parlant. Alors, c'est sûr que les flics ne comprennent pas chez vous, mais c'est légal. Et jusqu'à 98, vous savez qu'il y a l'ère du VIH quand même depuis 82-83, on voyait des cas de syphilis, mais assez rares. Et puis dans les années 95-96, il y a eu l'apparition de nouvelles molécules pour traiter le VIH, des traitements antirétroviraux qui ont permis de largement améliorer les patients, de les traiter et de considérer aujourd'hui que le VIH est une infection chronique comme le diabète, l'hypertension, l'hypercholestérolémie, etc. Donc il y a eu ce qu'on a appelé un relapse, c'est-à-dire que les gens infectés par le VIH sont dit on va relâcher nos habitudes sexuelles puisqu'aujourd'hui on a un traitement pour le VIH, on meurt plus. Dans les années 80, moi j'en avais 5 par jour qui mouraient. Aujourd'hui, si on a 5 par an, c'est exceptionnel. Et donc, ils ont relâché leurs habitudes sexuelles. Il y a eu des bars à Paris qui sont réouverts, des backrooms essentiellement pour les homosexuels. Et on a vu l'explosion de la syphilis. Et quand on a vu, qu'on a analysé un peu tout ça, et ben on s'est aperçu que c'était en effet essentiellement des patients homosexuels qui étaient VIH. Vous voyez qu'il y avait 60% de patients qui savaient VIH, qui contaminait les autres avec la syphilis, c'est-à-dire qu'ils ne se faisaient absolument pas de protection. Et le plus souvent, c'était des transmissions par fellation, parce que les gens n'ont toujours pas compris que la fellation est un acte sexuel, et qu'on transmet un certain nombre de maladies sexuellement transmissibles par la fellation. Donc on a vu ça exploser. Encore aujourd'hui, il y a 300-400 cas de syphilis par an. On a beau répéter ça à tout le monde, ça continue. Ils se protègent pour même pas pour le VIH. Hein. Vous imaginez ce qu'on peut voir chaque année au mois de septembre en consultation. Un autre type d'infection, une autre case du début, c'est les infections émergentes associées à une pathologie connue, c'est-à-dire qu'on connaissait la maladie. Hein, je vous ai donné l'exemple, et je ne vais pas revenir dessus, par exemple sur l'ulcère gastrique, je ne sais pas où il est, ou duodénal, et c'était, l'ulcère. Et c'est une maladie, avant on l'opérait, avant ça pouvait être dégénéré en cancer, avant on disait il faut boire du lait, je ne sais pas quoi, tous les remèdes de grand-mère et de papy des années 1950-1960, les chirurgiens, ils opéraient à tour de bras des ulcères gastriques qui se perforent, etc. Aujourd'hui, on sait très bien que, grâce à la technologie et aux outils que l'on peut avoir, on a pu retrouver une relation entre une bactérie et ces ulcères. Et il y a certains ulcères qui décompensent en cancer, certains types de cancer, et on peut les traiter avec des antibiotiques. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est une grande avancée, avec des médicaments pour cicatriser, bien sûr, l'ulcère. Et on peut très bien imaginer, plus tard, qu'on va retrouver une relation entre l'infarctus, par exemple, et une bactérie. Donc on traitera vos infarctus préventivement par des antibiotiques. Ça, c'est, on l'imagine. Voilà. Il y a un certain nombre de cancers qui sont liés à des virus ou des bactéries. Hein. Les cancers, l'hépatite C, ça donne des cancers du foie, l'hépatite B aussi, etc., etc. Donc on aura un traitement là-dessus. Avant-dernière case, des infections émergentes médiatisées. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un certain nombre de maladies, on avait l'impression qu'elles étaient toutes récentes. On vous a parlé il y a quelques années de l'hôpital Georges Pompidou et de la légionnelle. Vous avez tous entendu parler de ça, non ? Ça veut dire quelque chose ? Les toits aéro-frigérés, c'est une maladie bactérienne qui a été découverte dans les années 77 à Philadelphie. Il y avait un congrès de vétérans américains, dans un hôtel. Il y a eu un certain nombre de contaminations à Philadelphie et c'est devenu la maladie des légionnaires, la légionellose, qui donne une infection pulmonaire. C'est une bactérie, ça se traite avec des antibiotiques. Maladie très difficile à découvrir. En France, on sait que c'est une maladie qui a une déclaration obligatoire depuis les années 88. C'est-à-dire dès que vous avez une infection, on déclare cette maladie. Et puis, si on regarde simplement cette courbe que les journalistes regardent, on a l'impression finalement, c'est les années en bas, hein, c'est 1998, etc., que depuis 1996, le nombre de cas augmente. C'est logique, hein. Bon. Sauf que la déclaration donc obligatoire est depuis 1987. Donc les médecins, ils sont très très gentils, ils sont toujours très conformes à la loi. Dès qu'ils ont une maladie, ils la déclarent. Vous avez 5 pages à déclarer, un tout petit machin, etc. Tout le monde adore perdre son temps avec ça, même s'il faut le faire. Donc les médecins se sont compliants, l'ont fait. Non, bien sûr que non. Et puis en 96, il y a un truc qui est apparu, qui s'appelle un antigène, une bandelette urinaire. C'est-à-dire qu'on demande au patient de faire pipi, on trempe la bandelette dans le pipi, et si c'est marqué positif, comme un test de grossesse, la personne est infectée par cette bactérie. Extraordinaire. Alors qu'avant, il fallait faire des prélèvements de sérologie, attendre 15 jours. C'est très compliqué à isoler hein, comme bactérie. Et donc, on remarque quand même qu'avec l'avènement d'un nouveau test biologique, on voit l'augmentation du nombre de cas de légionnelles. Et puis si on sait que l'exhaustivité de la déclaration obligatoire était de 10% en 95, puis de 33% en 98, tout ça, ça nous ramène sur des calculs simples au fait que chaque année, il y a 1000 cas de légionnelles en France, point. C'est une maladie qui existe depuis longtemps, qui n'a jamais augmenté, qui n'augmente pas, et ça ne bouge pas. Donc tout ça, c'est simplement de l'émergence journalistique. Si on vous en parle aux actualités, c'est qu'ils n'ont pas grand-chose à vous raconter généralement, ou c'est parce qu'il y a eu une infection dans un hôpital parisien, c'est toujours bien d'en parler. Et on n'y peut rien. Bon, la tuberculose, c'est pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails, on dit toujours que la tuberculose augmente en France, c'est pas vrai, elle baisse progressivement. Sur ces chiffres que je vous montre, on en voit essentiellement à Paris, bien évidemment, essentiellement chez des sujets qui viennent d'Afrique, et essentiellement chez des sujets qui sont infectés par le VIH. On dit essentiellement d'Afrique parce qu'on a essentiellement des immigrés africains à Paris, au moins dans le 13e où j'étais. Dans d'autres pays européens, c'est plutôt l'Asie du Sud-Est, les Philippines ou autres. Ça dépend des pays dits émergents. Mais grosso modo, c'est relativement stable en termes d'incidence. Et puis on va terminer sur l'émergence virtuelle. L'émergence virtuelle, vous connaissez ça, ça s'appelle le bioterrorisme. C'est un sujet qui me passionne, qui a fait beaucoup parler de lui au cours des dernières années, surtout depuis 2001 à la suite de l'attentat du World Trade Center et des actes de bioterrorisme aux États-Unis. Le bioterrorisme est défini par l'utilisation intentionnelle d'un agent infectieux, quel qu'il soit, que ce soit un virus, une bactérie ou autre, dans le but de rendre malade ou de tuer un homme, un animal ou les plantes. Donc on utilise des agents infectieux comme arme de guerre. D'accord ? C'est beaucoup plus intéressant de rendre malade, comme toujours dans la guerre, un sujet que de le tuer. Un soldat, quand il se fait tuer sur un champ de bataille, il est mort. Il n'intéresse personne. S'il est blessé, vous allez avoir bien sûr les copains qui vont venir le chercher. Donc vous allez occuper un soldat blessé et deux autres soldats qui vont venir vous aider. Ça occupe du monde. C'est très intéressant, ça, sur le plan stratégique. C'est pareil pour les bactéries. Si vous êtes mort, vous êtes mort. Alors, il faut gérer après, comme la vague de chaleur en 2003, les sacs pour vous mettre à la morgue, etc. C'est un peu compliqué, mais c'est de la gestion post-mortem. Le premier acte de bioterrorisme, c'était en 1346, c'est une ville qui s'appelle Caffa, qui était en Crimée, qui était détenue par des Génois donc d'Italie, qui étaient des riches Italiens qui fabriquaient du tissu dans cette région, et qui était dans la ville de Caffa, et qui était une ville qui était assiégée par des Tatars. Pas des Tartares, des Tatars, qui étaient le peuple de Crimée, de cette région. Et pour déloger les Génois, ils ont balancé au-dessus des barricades de la ville les corps des soldats qui étaient décédés de la peste. La peste est une bactérie qui se transmet facilement d'homme à homme par voie respiratoire, qui est transmise par les rats et par les puces. Et donc, comme il y a eu une épidémie qui est survenue à l'intérieur de ce camp de Caffa, les Génois ont fui à travers toute l'Europe, c'est une vieille carte de l'Europe du XIVe siècle, et ils ont été contaminés un peu partout jusqu'à Marseille, Marseille étant les seuls qui aient réellement ouvert le port aux Génois pour récupérer les soirées, mais ils ont récupéré aussi la pandémie de peste, et ça a été ce qu'on appelait la deuxième grande pandémie de peste, ou la peste noire, qui a été responsable du décès de 20 à 30 millions de sujets en Europe, c'est-à-dire 30% des Européens. Donc premier acte de bioterrorisme, XIVe siècle, 30 millions de morts. Ça marque les esprits. Et le dernier acte du bioterrorisme, c'est celui dont vous avez sûrement entendu parler, on en parle encore un petit peu, c'est celui d'octobre 2001, avec l'envoi de ces lettres qui contenaient ce qu'on appelait les spores de Bacillus anthracis, la maladie du charbon en français ou l'anthrax en anglais, et qui a été responsable de l'infection de 22 personnes aux États-Unis, essentiellement des journalistes ou des sénateurs. Il y a eu quand même 5 décès parmi ces personnes. On ne sait simplement que depuis janvier 2009, le début janvier, que cet acte de bioterrorisme a été perpétré par un chercheur du FBI américain. On le savait depuis longtemps, mais enfin officiellement les Américains l'ont admis. Et comme par hasard, ce chercheur s'est suicidé il y a un an, donc l'affaire est enterrée. On n'ira pas plus loin. Je vous ai donné la définition du bioterrorisme. Et pour lutter contre ce bioterrorisme, il y a un gros, gros problème, puisque la plupart des pays ont fabriqué des armes avec ce type de bactéries. Et les ont utilisés. Je ne vais pas m'étendre dessus, mais je pourrais vous en parler des heures et des heures, notamment les Japonais, les Russes et les Américains. Il y a eu une convention en 72 sur les armes biologiques qui a été signée et ratifiée un an plus tard avec la Convention de Genève, qui interdit